Voilà, bonsoir. Il me revient de commencer. Étant le moins compétent pour cette question, je serais heureux que mes propos puissent être amendés par le docteur Charazac, qui évidemment pourra nous apporter à la fois son expérience et sa réflexion. Alors cette soirée sur la protection qui a pris pour thème la protection juridique des personnes conclut en effet notre cycle sur la dépendance, qui est un cycle qui s'attache à la question du soin. En effet, cette question de la dépendance est soulevée, on l'a rappelé en introduction avec Pascal Rebaudet, du fait que dans notre société, on privilégie l'image de l'autonomie, du sujet calculateur et informé, rationnel, auteur de la loi à laquelle il se soumet, et entre ces sujets autonomes, rationnels et informés, on suppose qu'il y a une situation d'indépendance et d'égalité. Indépendance souvent d'ailleurs jalouse d'elle-même et cherchant à se défendre de contrat en contrat, conclus entre des sujets également rationnels et informés. Or, cette image stéréotypée, pour reprendre un mot qui est devenu à la mode, du sujet autonome et informé égal à ceux avec lesquels il contracte, est évidemment contestée par le soin, qui nous apparaît comme une situation fondamentale d'inégalité, en tout cas d'asymétrie, d'assistance, pour reprendre un mot qui a été fort discuté, mais qui toutefois a sa beauté. Et donc voilà, cette image du sujet autonome doit être remise en question quand on a à réfléchir dans la perspective de ce qui nous conduit à la sollicitude et aux soins. Cette question est accentuée quand le sujet semble perdre ses facultés mentales. Soit du fait d'une maladie mentale, soit du fait de l'âge, soit quelle que soit l'origine, la maladie mentale conteste violemment notre image du sujet rationnel et souverain. Et il est intéressant de voir que cette interrogation se fait jour à travers le droit. Et c'est pourquoi il est bon de terminer par des considérations qui sont juridiques ou à la limite du juridique. En effet, pour reprendre le mot célèbre et fort juste de Lacordaire, entre le faible et le fort, c'est la liberté qui opprime et c'est la loi qui libère. Entre le faible et le fort, c'est la liberté qui opprime et c'est la loi qui libère. C'est-à-dire que la première fonction de la loi devrait être de protéger le faible dans sa précarité, justement dans les situations de dépendance, de protéger ses biens aussi, ce qui est engagé par la question de la protection juridique des personnes. Et puis cette question apparaît aussi sous l'angle du droit, parce que la fonction du droit est non seulement de protéger éventuellement le faible par rapport au fort, éventuellement de protéger ses biens par rapport à celui qui pourrait avoir par rapport à lui une position dominante, mais le rôle du droit est également de sauvegarder, de protéger l'ordre public. Et donc la question de la maladie mentale, je vais le montrer rapidement, s'est aussi posée historiquement à travers sa proximité avec la délinquance, avec les marges de notre société, le statut de tous les exclus que les sociétés laissent sur leur bord et dont elles sont fort embarrassées. Et donc, je commencerai mon propos par un historique superficiel et rapide de la question de l'internement, du traitement dans les sociétés de la maladie mentale assimilée plus ou moins à une situation de délinquance. Et on est donc à l'intersection d'une mesure d'ordre public et d'une démarche thérapeutique. Et à cette intersection, des études classiques, comme celle de Michel Foucault, par exemple donc dans son livre célèbre sur la folie à l'âge classique, des études comme celle de Michel Foucault ont assez montré qu'il en va du pouvoir de la société sur les corps. On les enferme ou on les enferme pas, on les ligote ou on les ligote pas, on les protège ou on les protège pas, et pouvoir de la société sur les esprits, dont on va tâcher d'évaluer la responsabilité, la capacité de mesurer le degré de responsabilité. Ce qui fait que le pouvoir pénètre, là aussi, sous l'angle même de l'ordre public, dans les âmes, pour ainsi dire. Donc pris entre une approche juridique et une approche thérapeutique. L'ambiguïté entre les deux n'étant pas souvent dissipée et étant difficile. À dissiper, tant la question des marges de la société est difficile à résoudre. Par exemple, c'est la question qui est celle du consentement aux soins. Si le sujet de droit est un sujet autonome, souverain, etc., si la situation juridique est celle de l'égalité, il n'empêche que tout soin comporte une possibilité de violence et que d'invasion, et que ceci est particulièrement évident dans la question donc du consentement aux soins donné par le patient lui-même, donné par l'entourage, ou même du soin sans consentement. En quelque sorte, la question c'est peut-on soigner quelqu'un malgré lui ? C'est une question qui me semble essentiel. D'autre part, donc, qu'est-ce que la société peut faire pour les personnes qui sont en situation extrême de, ou qui nous apparaissent comme telles, en situation extrême de dépendance et de maladie mentale. Alors, je développerai simplement un historique quelque peu rapide, évidemment, pour rappeler d'où l'on vient. Face aux altérations de la vie psychique, donc que l'on a appelé folie, démence, délire, on ne prendra pas trop de précautions de vocabulaire, sinon on n'en finirait plus. Mais on va dire par rapport à la folie. Qu'ont fait les sociétés par rapport à la folie ? Michel Foucault fait remarquer, je crois à juste titre, que les asiles sont une création de l'âge classique, c'est-à-dire du XVIIe siècle. Et pourquoi les asiles sont-ils une création du XVIIe siècle ? Parce que vous ne l'ignorez pas, le XVIIe siècle, l'âge que l'on appelle l'âge classique, c'est celui de l'émergence justement de la raison, du sujet rationnel comme et autosuffisant comme prototype de l'homme par excellence. On peut penser à l'image de Descartes que tout le monde a. Or, au fond, tout idéal produit son exclusion. Pensez maintenant, par exemple, au fait que notre idéal est celui de la performance, de la compétition. Cet idéal produit ses exclusions, produit ses pathologies aussi. Et donc il y a des pathologies de la dépression nerveuse, de la fatigue, de la démobilisation, de la déliaison, qui viennent de ce qu'un certain nombre de sujets se sentent exclus, n'ont même pas les ressources pour relever le défi de correspondre à ce prototype. Et donc, les fous qui, jusqu'au XVIIe siècle, était présent dans les sociétés sous la forme d'une manifestation d'un monde suprarationnel. Soit qu'ils soient possédés, soit qu'ils aient une vertu chamanique particulière, l'existence même de ces marges de la conduite humaine n'excluait pas qu'ils aient leur statut social. Tout le monde connaît donc la figure du fou au Moyen-Âge avec son côté prophétique, au fond. À la fois démoniaque et sacré, et donc ayant son statut dans cette société. Quand la rationalité a triomphé, que faire du fou? Eh bien, on l'enferme. On l'isole. Et le 17e donc, a développé des formules, donc des asiles, qui d'ailleurs font suite, Michel Foucault l'explique, aux léproseries. Car la léproserie, c'était la solution que les sociétés avaient trouvée face à l'épidémie pour résoudre la question de l'épidémie par l'isolement. Évincer quelqu'un que l'on met en quarantaine et que, dont on se sépare et que et donc on divise le territoire en quelque sorte pour permettre à ces mesures d'isolement par rapport à un mal dont il faut se sauvegarder. Et donc ces asiles n'ont pas une vertu thérapeutique, ils n'ont pas un but thérapeutique, ils ont un but d'ordre social. Essentiellement, d'ailleurs, on y accumule les vagabonds qui posent les mêmes problèmes. 17e siècle, c'est l'émergence de l'État. Que va-t-on faire des vagabonds? On y entasse aussi quelques pervers de ci, de là. Et donc, c'est toutes les marges de la société qui se trouvent mises dans cette enceinte que l'on appelle asile, qui est en même temps donc une protection et un enfermement. Deuxième étape, c'est la création de l'hôpital psychiatrique. L'hôpital psychiatrique, vous le savez peut-être, naît pour l'essentiel au début du XIXe siècle et pendant la Révolution française, à l'époque de la Révolution française, avec les grands noms que sont Pinel et Esquirol. C'est-à-dire qu'il y a une volonté de traitement, une volonté de thérapeutique. Entre-temps, est venue l'idée que la folie est une maladie. Et si c'est une maladie, elle doit pouvoir être guérie. Et la confiance qui est placée dans la science permet de penser qu'on devrait pouvoir réaliser donc la guérison de ces affections mentales, de ces souffrances mentales qui deviennent maintenant conçues donc comme des maladies. Dans les textes que vous avez, c'est ce qui correspond au texte que j'ai pris dans le livre de Marcel Gauchet, « La pratique de l'esprit humain », qui est justement un texte d'Esquirol, qui présente donc le traité de la manie. On commence à la troisième ligne. « Le traité de la manie a constaté que la maladie appelée communément folie n'est pas incurable, comme pense le vulgaire. La nécessité d'isoler les aliénés de leur famille et de leurs anciennes relations a été vivement sentie à Londres et à Paris. L'expérience a prouvé qu'ils ne guérissaient point au sein de leurs habitudes ordinaires et qu'une partie essentielle du traitement est de les environner d'objets nouveaux. Les dépenses qu'entraîneraient des isolements particuliers, le danger de traiter des aliénés dans des maisons qui ne sont pas disposées à cet usage, l'intérêt qu'inspirent les malheureuses victimes. » Donc on a l'insensé n'est plus pensé comme quelqu'un de dangereux, mais comme une victime. Ce qui change complètement le regard. L'intérêt qu'inspirent les malheureuses victimes d'une susceptibilité nerveuse trop exaltée ou trop épuisée, le désir d'offrir aux Français ou aux étrangers un établissement où soient mis en pratique dans toute leur étendue les principes développés dans le traité de la Manie, tels sont les motifs qui ont déterminé l'établissement de la maison de traitement des aliénés, établie sous les auspices du citoyen Pinel, auteur de ce traité. Le texte date de 1804. C'est intéressant. C'est pour ça que j'ai mis les dates. Parce que ça coïncide donc avec la Révolution française. D'ailleurs, le texte est daté du 30 Ventose an 10 donc correspond à cette conviction que l'on doit pouvoir, avec la médecine, venir à bout de ce mal plutôt que de se contenter de le mettre à part. Si bien que un hôpital apparaît sous la plume des auteurs de cette époque, comme une véritable utopie rédemptrice. C'est-à-dire un lieu où l'on va placer les sujets malades dans un environnement entièrement préparé pour eux, entièrement conçu pour eux. Quelles sont les caractéristiques d'une utopie ? Une utopie, c'est un monde cohérent, un monde fait pour les gens qui s'y trouvent. La plupart du temps, on est obligé de s'adapter au petit bonheur, la chance, aux endroits où on arrive. Alors que l'hôpital est fait pour les personnes qui vont y être accueillies. Et tout dans cet hôpital doit être pensé pour le soin de ce patient. Je signale au passage qu'il y a une utopie tout à fait semblable, c'est celle de l'école. Où là aussi, on imagine un monde clos, un monde complètement cohérent, un monde fait pour celui qui va y entrer, déjà établi avant qu'on y entre, et destiné à présenter une sorte de société modèle. L'école est censée présenter une société modèle. Et bien de la même manière, l'hôpital psychiatrique, j'ai mis ici quelques descriptions qui sont vraiment intéressantes pour leur contexte, l'hôpital psychiatrique est présenté donc comme cette utopie qui va permettre la régénération du sujet, car derrière, l'idée, c'est que la maladie mentale est un effet social, à une cause sociale. Et si la maladie mentale a une cause sociale, si je modifie l'environnement, je peux à ce moment-là me préoccuper de de libérer le patient. Lisons rapidement un des deux textes, celui de Cabanis de 1793, qui présente donc effectivement l'hôpital comme une utopie. J'oserais ajouter que par l'effet des institutions sages qui constituent une véritable république, vous rendez compte ? L'hôpital pensé comme une république, l'école est encore maintenant souvent pensée comme une espèce de petite république, qui constitue une véritable république, la démence et tous les désordres de l'esprit doivent également devenir plus rares. Pourquoi ? La société n'y dégrade plus l'homme. On voit Rousseau derrière. La société a dégradé l'homme. Si la société a dégradé l'homme et a produit des malades mentaux, il faut faire une société qui ne dégrade plus l'homme, donc une société dans laquelle les hommes puissent se loger, y compris ceux qui sont les plus dépendants, les plus vulnérables, les plus fragiles, les plus insensés. La société n'y dégrade plus l'homme, elle n'enchaîne plus son activité, elle n'étouffe plus en lui les passions de la nature pour y substituer des passions factices et misérables, on voit bien Rousseau derrière, propre seulement à corrompre la raison et les habitudes, à produire des désordres et des malheurs. Les autorités révoltantes, les préjugés tyranniques, le petit patron, le petit chef, cessent de lui faire la guerre. Les mœurs de l'ignorance, de la déraison, de la misère ne l'environnent plus de leur contagion dès le berceau. Soumis aux seules douleurs qui sont inséparables de sa nature, l'homme ignorera toutes les altérations de l'esprit que produisent directement les désordres d'un mauvais état social. Et par suite, les funestes penchants que développe son influence. Enfin, le moment viendra peut-être où la folie n'aura d'autre source que le dérangement primitif de l'organisation ou ces accidents singuliers de la vie humaine qu'aucune sagesse ne peut prévenir. Voilà, on constitue un hôpital. L'utopie est enfermante et rédemptrice en même temps. On sait que cette image utopique a laissé place à des mesures extrêmement violentes, contraignantes, misérable, même par certains aspects. Tout le monde connaît les descriptions effroyables du sort des malades mentaux dans les hôpitaux psychiatriques au 19e, les cages dans lesquelles ils sont tenus, les chaînes par lesquelles ils sont attachés. Dans la réalité, on voit bien que cet enfermement a donné lieu à un monde beaucoup plus violent, et il n'est pas rare encore que l'on évoque donc les violences qui ont lieu dans les maisons de personnes âgées aussi bien que dans les hôpitaux psychiatriques, donc ce qu'on appelle maintenant maltraitance. Il fut un temps où, je ne sais pas si ça continue peut-être, où l'on apprenait aux infirmiers comment attacher un malade. Je pense que d'ailleurs on doit continuer de l'apprendre. Plus que jamais, le docteur Charazac. Et donc, ça pose bien la question de la dépendance, de la vulnérabilité, de la violence et du au nom de quoi cet acte, qui est à la fois invasif pour les âmes et pour les corps, peut être fait. En effet, Marcel Gauchet, dans son livre que je vous recommande, c'est un livre, son style est un peu parisien, donc, un peu précieux, difficile parfois, dommage. Mais le livre est vraiment intéressant, montre qu'au bout du compte, cette utopie procède à un triple enfermement. Enfermement dans la maladie elle-même, car la maladie mentale apparaît très nettement comme un monde clos, un monde séparé des autres, privé de relations. La maladie mentale s'indique d'abord par la privation de relations avec l'entourage et avec c'est ce que dit Freud, hein, être normal, c'est être capable d'aimer et de travailler. Et donc quand quelqu'un a de la peine à aimer et à travailler, c'est les premiers indices d'une souffrance. Et donc il y a un premier enfermement qui est celui de la maladie elle-même. Et puis il y a un deuxième enfermement qui est celui de l'asile et de son enceinte qui va mettre le sujet à part. Vous voyez, non plus pour l'exclure, mais pour le mettre dans une cité rédemptrice, une utopie rédemptrice. Ça, c'est le deuxième enfermement. Et puis le troisième enfermement, c'est celui de la cellule. Car là aussi, il faudrait développer, mais on pourrait revenir dessus si vous voulez, c'est très intéressant de voir que c'est en même temps que la cellule a été développée dans les hôpitaux psychiatriques et dans les prisons, avec l'idée qu'il fallait mettre la conscience en présence d'elle-même. Qu'a été faire Tocqueville en Amérique ? Vous savez pas, il est allé voir les prisons. Parce que la grande invention, c'était la cellule. Invention typique, justement, d'une approche quelque peu rationaliste qui consiste à dire, faut mettre le sujet tout seul, de temps en temps, face à lui-même, pour qu'il puisse venir à récipiscence. Et donc, le livre de Marcel Gauchet traduit très bien ce triple enfermement, enfermement dans la maladie mentale, enfermement dans l'enceinte de l'hôpital, et enfin, enfermement dans la solitude. Je ne développerai pas le thème des cages, etc. Par rapport à cela, les gens qui disent que notre société qu'il n'y a pas de progrès et que notre société est violente devraient de temps en temps se retourner sur le passé quand même. Parce qu'il est évident que ce que le droit nous apporte avec les mesures de protection des personnes correspond à des progrès considérables par rapport à cette attitude qui, au fond, redouble ou retriple même, on vient de le voir, la dépendance. Et répond à la vulnérabilité par un soin qui n'est pas autre chose, ne nous apparaît pas autre chose que comme une violence, quelle que soit la bonne volonté qui l'inspire. Et donc le droit actuel s'efforce au contraire donc de protéger les personnes de la possibilité que donne à son entourage leur vulnérabilité et leur dépendance. Le docteur Charazac en parlera beaucoup mieux que moi, donc des trois mesures fondamentales de la protection des personnes, la sauvegarde, la curatelle, la tutelle. À travers cela, une première chose apparaît, c'est que, je disais au début, entre le faible et le fort, c'est la liberté qui opprime, c'est la loi qui protège. Et donc on voit comment, peu à peu, l'élaboration de la loi porte le souci des personnes, vaille que vaille, et en particulier les soucis des personnes en tant qu'elles ont des biens à échanger et à céder, qu'elles ont des transactions à faire. Un des premiers buts, c'est évidemment la sécurité des transactions pour éviter que les personnes les plus vulnérables ne soient conduites à être trompées dans leur pratique. Le juge de tutelle doit respecter trois grands principes du droit. La nécessité de la mesure. Il doit évaluer si cette mesure est véritablement nécessaire ou pas. Et c'est à cela que est liée l'expertise. Et donc le docteur Charazac en parlera mieux que moi, puisque c'est le cœur d'un bon... Enfin, il a de tellement d'activités que je ne sais pas où est le cœur. Mais en tout cas, c'est une, dans ses activités, c'est une de ses activités importantes que d'avoir justement à répondre à ces questions d'expertise sur la nécessité de la mesure de protection. Le deuxième principe du droit fondamental, c'est celui de la subsidiarité. C'est-à-dire... Non seulement est-ce que la mesure est nécessaire, mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres solutions ? Et est-ce qu'il n'y a pas d'autres personnes qui sont dans l'entourage et qui seraient préalablement à solliciter avant qu'un pouvoir administratif ou étatique extérieur n'intervienne ? C'est d'ailleurs ce qui fait que, mais le docteur Charazac en parlera mieux que moi, l'interrogation sur la protection des personnes est toujours une interrogation pour l'entourage, qui est peut-être parfois trop impatient de voir la personne mise sous tutelle, mais parfois aussi le ressent comme une culpabilité, se sent lui-même remis en question par cette situation. Si bien que la mise sous tutelle ne concerne pas qu'une personne, mais elle concerne tout un entourage. Et c'est là que la dimension psychologique est dans sa plénitude, mais que, justement, donc la question de l'entourage doit concerner la décision, selon le principe de subsidiarité. Et puis le troisième grand principe du droit, c'est celui de la proportionnalité. Et c'est la raison pour laquelle donc, le législateur ménage trois degrés, pour ainsi dire, de la plus ou moins grande incapacité du sujet de droit en présence de sa maladie, en présence de son handicap. Voilà, tout ceci renvoie à la fois par un historique et par quelques propos généraux. À la question donc fondamentale que j'avais annoncée au début, peut-on faire le bien de quelqu'un malgré lui ? Et en fait, nous conduit à penser que, contrairement à ce que l'on pense, il ne faut pas s'arrêter à la réciprocité des droits et des devoirs. On dit trop souvent que les devoirs ne sont que la réciproque des droits et que les droits ne sont que la réciproque des devoirs. Devant les situations de détresse, devant les situations de dépendance et d'inégalité, il y a une priorité de l'obligation par rapport au droit. Quand je vois quelqu'un tomber, il y a une priorité de l'obligation. Quand je vois quelqu'un se suicider, il y a une priorité de l'obligation par rapport au droit. Et c'est justement ce qui fait que la question donc de la vulnérabilité des personnes nous renvoie à cette obligation fondamentale qui est donc l'obligation stricte du secours et inséparable apparemment d'une certaine violence. C'est la grande ambiguïté du soin qu'au fond, il ne peut pas échapper à la proximité d'une certaine violation.
Merci. Bonsoir. Je remercie M. Dumont, Mme Rebaudet de cette invitation à parler devant vous. Vous n'êtes pas très nombreux, mais comme disait mon maître Henri Maldinet, seule la minorité est active. Donc je pense que votre présence est significative de votre motivation pour travailler ces questions. On ne s'est pas concerté, bien sûr, avec M. Dumont sur le contenu de nos interventions, et je constate que ce qu'il a dit, il a relancerait tout un tas de questions que je n'ai pas abordées, qu'on verra peut-être tout à l'heure dans la discussion. Des questions qui sont contenues dans ce thème de la dépendance, hein, qui fournit ce cycle cette année, parce qu'effectivement, comme vous venez de le dire, on peut pas séparer la notion de dépendance de celle de contrainte et de la question de la violence. Et vous avez fort bien fait de souligner la présence de ces dimensions dans le soin. C'est une des grandes difficultés. Et en même temps, c'est nécessaire de respecter ce lien entre, pour prendre des notions à la mode, bientraitance et maltraitance. Enfin bon, on reverra peut-être ça dans la discussion. J'ai intitulé mon propos « Pourquoi est-il plus difficile de protéger la personne que les biens ?» Alors je vais parler de cette question de la protection essentiellement par rapport au sujet âgé, parce que c'est ainsi que les choses se présentent dans ma pratique, et puis aussi parce que je crois qu'actuellement, ça n'échappe à personne, il y a une demande importante à tous les niveaux concernant les personnes âgées dans notre société. Ça se ressent également donc au niveau des demandes de protection qui concernent de plus en plus ces personnes-là, alors que je dirais, il y a une trentaine d'années, moi en tout cas dans ma pratique, j'étais amené autant à intervenir au niveau des certificats. Voilà. Alors je vais partir d'un texte que j'ai écrit, qui est pas très long, dont j'éviterai sur lequel j'éviterai de trop digresser quand même. C'est un peu mon défaut. Mais on a un peu de temps. Mais il faut réserver du temps pour la discussion. Bref, je vais tâcher quand même de pas trop m'écarter. Donc pourquoi est-il plus difficile de protéger la personne que les biens ? C'est la question que je me suis posée en réfléchissant à ce thème. C'est la première fois que j'ai été amené à réfléchir à la question des tutelles et des curatelles dans une perspective un peu clinique et pas simplement pour présenter la loi et tout ça. Loi que je n'ai pas prévu de vous présenter, mais on verra là encore s'il faut en parler. Pour commencer, ce constat, ni pour la loi, ni pour le sens commun, il suffit qu'une personne majeure, âgée ou non, devienne dépendante pour qu'elle fasse l'objet d'une mesure de protection. Je ne dispose d'aucun chiffre, mais il semble évident que la majorité des personnes âgées vivant en état de dépendance ne sont pas placées sous un régime quelconque de protection. La grande majorité des personnes âgées, vous savez que si on prend le cas des patients atteints de la maladie d'Alzheimer, il y a à peu près 80% de ces patients qui vivent chez eux. Et bien entendu, ces 80% sont loin d'être tous protégés. La plupart voient leurs biens gérés par le conjoint, par un enfant, avec des procurations, des choses comme ça. La dépendance est définie tantôt comme l'incapacité pour une personne de réaliser seule certains actes de la vie quotidienne, je parle de la définition gériatrique, hein, tantôt comme la nécessité de recourir à un tiers pour les accomplir. Du point de vue clinique, cette seconde définition est plus riche parce qu'elle comporte l'idée d'interaction entre deux personnes, pas simplement le fait que l'une se substitue à l'autre. Mais ces interactions n'impliquent pas de manière automatique l'idée de vulnérabilité ni celle corrélative de protection. On sait qu'elle n'implique même pas toujours que la personne reconnue dépendante éprouve le sentiment d'avoir besoin d'aide, ni que la personne dite aidante ait pleine conscience de la charge qu'elle supporte. Elles peuvent, au contraire, l'une et l'autre, les nier. C'est très classique, hein, c'est le fameux déni de la maladie, hein, qui est très courant. Je suis tout à fait capable de rentrer chez moi, je me débrouille très bien, j'ai besoin de personne. Voilà. Ce qui intéresse donc le clinicien, et tout spécialement le psychanalyste, c'est pourquoi le signalement de l'état de dépendance d'une personne survient-il à un moment donné ? C'est-à-dire, comment passe-t-on de l'état et de la relation de dépendance à la démarche de protection via la notion de vulnérabilité ? On peut se demander, en effet, bon, qu'est-ce qui fait, je vais vous apporter des éléments de réponse, hein, concrets, mais qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, un conjoint, des enfants, demande une protection alors qu'ils auraient pu le faire déjà 5 ans, 8 ans, 10 ans avant, hein. En général, le diagnostic remonte au moins à 5 ans, 8 ans en général. Ici se place une première remarque pour observer que la protection n'a pas toujours pris cette forme. Alors je vais très très rapidement évoquer un petit peu ce qui a pu être dit par M. Dumont, mais sans rentrer dans les détails. Un rapide historique des droits des personnes qu'on appelait autrefois incapables majeures et qu'on nomme aujourd'hui personnes protégées. Donc ce rapide historique, je vais vous le présenter là, en précisant encore une fois que je ne suis pas juriste, hein, mais simple auxiliaire de la justice, et que je ne retiens donc de ce survol vraiment que ce qui touche mon propos. Hein. Les régimes de protection antérieurs à la loi du 3 janvier 68 protégeaient uniquement le patrimoine. Ils n'étaient guère appliqués, car il était plus simple de demander l'internement de la personne, selon les modalités de la loi de 1838, celle qui a instauré les asiles, les hôpitaux départementaux, qu'on n'appelait même pas hôpital, hein, enfin qui étaient les asiles départementaux. La loi de 38 prévoyait d'en créer un par département. Longtemps, la Loire n'en a pas eu, et hospitaliser, c'est interner ces personnes-là à Saint-Jean-de-Dieu, dans le Rhône. Donc selon les modalités de la loi de 38 qui a instauré le placement d'office et le placement volontaire, lorsqu'une personne était hospitalisée d'office dans un asile départemental, ses biens passaient automatiquement sous la gestion d'un administrateur provisoire. Et donc, entre autres, était ainsi assurée sa subsistance. Quand j'étais encore à l'hôpital, j'ai quitté l'hôpital il y a 3 à 4 ans, j'ai été pendant plus de 10 ans médecin conciliateur, et puis on nous disait aussi médiateur. Donc il m'arrivait d'avoir des demandes de personnes disant « je suis en psychothérapie » et on m'a dit que c'était important de savoir pourquoi mon aïeul a été hospitalisé autrefois à Saint-Jean-de-Dieu, et qu'est-ce qu'il avait comme maladie, etc. Alors je voyais donc, on m'amenait des dossiers qui avaient plus d'un siècle. Il n'y avait pas grand-chose à l'époque dans les dossiers, hein, dans les années 1890. Il y avait essentiellement la correspondance avec la famille concernant le règlement de la pension. C'est essentiellement ça. Le peu qu'il y avait d'échanges concernait qui payait l'hébergement de la personne. La grande nouveauté de la loi du 3 janvier 68 fut, à cet égard, de dissocier le régime de protection de celui des soins. Désormais, quelqu'un pouvait être hospitalisé d'office sans être automatiquement placé sous tutelle. Et à l'inverse, il n'était pas nécessaire qu'une personne soit hospitalisée pour qu'elle soit placée sous tutelle. Ou curatelle, bien sûr. Mais la loi s'appliquait toujours essentiellement à l'incapacité de gérer ses biens, avec pour objectif de les protéger de cette incapacité, mais aussi de la prodigalité, de l'intempérance et de l'oisiveté de l'intéressé. Trois termes qui étaient dans la loi à l'époque encore. Prodigalité, intempérance, oisiveté. Trois termes auxquels font écho ce que disait M. Dumont tout à l'heure sur la raison. Hein. On va voir comment aujourd'hui la loi qui a été changée recentre le certificat et le motif de la protection sur l'état de santé, on ne peut plus aujourd'hui, en principe, on ne peut plus de placer quelqu'un sous tutelle simplement parce que c'est un joueur ou parce qu'il a des mœurs qui déplaisent à la famille et qui gaspille l'héritage. Autrefois, c'était possible. La réforme du 5 mars 2007, entrée en vigueur le 1er janvier 2009, marque à cet égard une évolution notable. Le fait que l'on parle désormais de personnes protégées et non plus de personnes incapables signifie que la protection est due à la personne et pas seulement à son patrimoine. Il n'est plus question de comportement inadapté, mais seulement d'une atteinte des facultés physiques ou et mentales. Une atteinte des facultés physiques ou mentales. Cette réforme repose sur trois principes fondamentaux, la liberté, la dignité et la solidarité. J'en fais un rapide commentaire, mais rapide parce que je ne suis pas juriste et puis mon propos est surtout centré sur la clinique. La dignité signifie que le magistrat prend en considération des questions telles que le logement, c'est-à-dire le maintien à domicile, ou l'entrée en établissement d'hébergement, EHPAD, et non pas simplement, encore une fois, les biens. La solidarité concerne la famille, qui est non seulement appelée à prendre le mandat de gestion, pratiquement, enfin en tout cas la loi le prévoit, sauf naturellement quand ce n'est pas possible, pour différentes raisons, mais aussi habilitée à saisir le juge. Le juge ne peut pas se saisir lui-même. Il faut qu'il soit saisi par la famille ou par le procureur de la République, par exemple, s'il y a un signalement. Pour le médecin, le principe de liberté est plus difficile à cerner dans la mesure où il lui est demandé d'apprécier la capacité d'une personne d'exprimer sa volonté, alors qu'inévitablement, l'instauration d'une mesure de protection restreindra les libertés de la personne, avec toutes les conséquences cliniques qui en découleront. En effet, on peut déclarer qu'une personne dépendante est encore capable d'exprimer sa volonté, mais qu'elle doit être placée sous tutelle, parce qu'elle ne peut plus agir, au sens d'accomplir seule les actes de la vie civile. Ou bien on peut, de manière plus contradictoire, conclure qu'une personne peut encore exprimer sa volonté, mais que son audition serait de nature à aggraver son état de santé mentale. Il s'agit alors de savoir si l'on parle de l'incapacité qu'aurait cette personne d'exprimer sa volonté devant le juge. Capacité qu'elle pourrait retrouver ou conserver dans d'autres circonstances, comme par exemple durant l'examen clinique. C'est très délicat, c'est très difficile. Je me mélange encore parfois. Il y a 2 ou 3 mois, on m'a demandé un complément, un concertificat, parce que j'ai été un peu contradictoire dans mes conclusions. C'est un couple que j'avais été voir chez lui, dans la banlieue de Lyon, conduit par le fils, des personnes très âgées, vivant en autarcie, qui avaient été déjà cambriolés plusieurs fois en voyant littéralement sous leur nez des gens embarquer des affaires. L'homme, près de 90 ans, se défendant farouchement d'avoir besoin de quoi que ce soit, etc. J'avais retenu qu'ils pouvaient exprimer leur volonté encore, lui en particulier, mais que son audition par le juge était à éviter, puisqu'on nous demande de dire hein, est-ce que l'audition est de nature est compatible avec la santé de la personne ou est-ce qu'elle peut être impossible, etc. J'avais dit que ça paraissait très difficile qu'on puisse amener cet homme et même que le juge vienne à domicile, comme il arrive souvent aux magistrats de se déplacer. Mais donc effectivement, j'ai été replacé devant cette difficulté de cette notion de capacité d'exprimer sa volonté, parce que là on est dans manifestement il y a une définition au niveau du droit qui m'échappe parfois un peu. J'ai retrouvé tout récemment, en rangeant des choses là, vers une approche pluridisciplinaire, j'avais déjà écrit ça, des capacités décisionnelles des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. C'est un document édité par Médéric Alzheimer. J'ai retrouvé ça tout récemment en rangeant des papiers. C'est la notion de différence entre consentement et assentiment, etc. Les éthiciens... ou des philosophes éthiciens comme Fabrice Xil poussent très très loin ces nuances. Moi, j'avoue que j'ai parfois du mal à les saisir et à les appliquer. Processus décisionnel, nature des décisions, contexte décisionnel, caractéristiques de la personne, notion de compréhension, de discernement, de raisonnement. C'est pas toujours facile, quoi. Bref, je vous épargne, puis c'est écrit tout petit, j'ai pas pu tout... Mais bon, c'est pas facile, cette notion de capacité d'exprimer sa volonté. Bon, je passe à l'approche clinique, où là, je suis sur un terrain qui m'est beaucoup plus familier. On reviendra peut-être là-dessus tout à l'heure, si vous voulez. Afin de me sentir sur un terrain suffisamment ferme, j'ai choisi d'aller de la clinique au principe et non l'inverse. Je partirai donc des questions et des conflits que soulève l'examen d'une personne et la rencontre avec ses proches. Et je commenterai dans un second temps les notions de vulnérabilité, de protection et de dépendance. Cette approche clinique se décomposera en trois volets concernant successivement la famille, la personne à protéger et le médecin certificateur. Je commencerai par la famille, puisqu'en matière de protection des sujets âgés, c'est d'elle que vient habituellement la demande. Deux questions se posent vis-à-vis de la famille. Qu'est-ce qui déclenche son initiative de demander l'ouverture d'une protection, hein, j'ai déjà évoqué tout à l'heure, mais aussi... Qu'est-ce qu'il a jusqu'ici retenu de la mettre en œuvre ? Pourquoi ils ont attendu autant ? Il est aussi difficile d'identifier les facteurs déterminant la prise de conscience de l'incapacité, de la fragilité, de la vulnérabilité du parent âgé, que ceux qui décident de son entrée en institution. C'est un petit peu le même problème. Vous savez, qu'est-ce qui fait qu'on demande une entrée en EHPAD ? On sait très bien que c'est connu depuis longtemps maintenant des gériatres que ce n'est ni le stade de détérioration cognitive ni le degré de dépendance qui déclenche l'entrée en établissement. Ce sont pas des critères médicaux qui déterminent le départ du domicile, mais ce sont des aspects comportementaux et affectifs au niveau de la relation d'aide. C'est la relation avec le proche qui devient plus possible. Mais c'est pas son MMS, c'est pas son score aux épreuves, etc. Sans pouvoir m'appuyer sur aucune statistique, mais à en juger par l'histoire clinique rapportée par l'entourage, date d'apparition des premiers symptômes, date du diagnostic, date de l'instauration ou non d'aide à domicile, il me semble que le même phénomène opère au niveau de la décision de demander une mesure de protection légale. On peut en tirer la conclusion que la demande ne dépend pas seulement de la perception de la vulnérabilité du parent, mais aussi d'une certaine fragilité du ou des proches aidants. J'entends par là qu'à un moment donné, l'aménagement instauré parfois depuis des années, avec la fameuse procuration et tout ça, on a la signature, l'aménagement instauré parfois depuis des années est perçu autrement, comme comportant des risques pour le parent comme pour le ou les enfants. Et j'interpréterai ce changement en termes de fragilité et d'insécurité partagée, c'est-à-dire en considérant que le ou les proches, à l'origine de la demande, éprouvent eux-mêmes un sentiment d'insécurité ou de vulnérabilité. Au-delà des motifs rationnels, presque toujours envisagés, passage devant un notaire, nécessité d'entreprendre des démarches pour entretenir la maison, etc., au-delà donc des raisons concrètes, je pense qu'il existe un noyau de motifs affectifs liés au fantasme issu de la relation de dépendance. On y reviendra, je pense. Les mêmes motifs affectifs peuvent aussi empêcher de recourir à une mesure de protection légale. Parmi les objections qu'il m'est arrivé de rencontrer de la part des enfants demandant l'instauration ou le renouvellement d'une mesure, les plus fréquentes concernent le fait de subir le contrôle d'un tiers. J'ai entendu ainsi des parents ou des enfants de majeurs protégés se plaindre de l'humiliation qu'ils avaient éprouvée de devoir justifier tel ou tel frais engagé pour leur protéger. On touche là un élément narcissique qui peut être décisif et qui s'explique aisément par le fait que la protection légale viendrait disqualifier en quelque sorte la protection offerte par l'amour. Hein. Derrière, il y a l'idée qu'on ne reconnaît pas l'amour, quoi. On ne devrait pas nous demander des comptes. On fait déjà tant pour lui, pour elle. C'est très, très mal vécu. Et ça, c'est des choses que j'ai perçues récemment, parce qu'il faut dire qu'il y a eu une avalanche de demandes avec les renouvellements, là, et j'ai été amené à en voir pas mal ces derniers temps. Avec donc ces commentaires que je n'avais pas souvent entendus de personnes un peu amères disant quand même, en fait, c'est pas normal qu'on nous demande des comptes comme ça, quoi. Alors c'est vrai aussi que, moi j'avais aussi la notion quand même qu'on ne demandait pas souvent des comptes, mais là ça dépend des tribunaux, ça dépend des cabinets, ça dépend de beaucoup de choses. Mais bon. La société vient mettre des obligations là où l'amour devrait suffire. L'idéal serait de s'en passer. Bon, on va peut-être repenser à tout à l'heure. Maintenant, au niveau de la personne âgée dépendante, elle voit clairement toute initiative en matière de protection de ses biens et de sa personne comme une restriction de ses libertés. Ça, c'est clair. Bien entendu, elle ne le formule pas ainsi, mais comme une atteinte portée à ses moyens d'agir. Singulièrement, deux questions reviennent souvent. La possibilité de faire des cadeaux à ses proches, en étant libre d'exprimer ses préférences, en favorisant par exemple les petits-enfants au détriment des enfants. Moi, je veux pouvoir faire des cadeaux à mes petits-enfants si je veux, et si je ne veux pas en faire à leurs parents, eh ben je... voilà. Et puis, le fait de pouvoir refuser, visant d'abord, bien entendu, le départ de chez soi, mais aussi toutes les aides mises à disposition d'une personne âgée dépendante. Je reviendrai plus loin sur la notion de cadeau qui s'inscrit avec l'argent dans un certain registre de la libido anale dont il est essentiel de tenir compte pour comprendre ce qui se joue autour des demandes de protection. Le refus se rattache à un ensemble de phénomènes cliniques familiers à ceux qui s'occupent de patients âgés, avec tout ce qui concerne l'opposition aux soins, le refus des médicaments et de la nourriture, etc. Mais j'observe que le refus et l'opposition appartiennent aussi au registre de l'analité. Hein. L'enfant sur le pot qui refuse de faire comme maman lui demande. Troisièmement, le médecin certificateur. Il ne doit pas seulement identifier des troubles, mais les mettre en rapport avec la capacité d'une personne de connaître, juger et décider ce qui est bon ou non pour elle. Or, les cliniciens savent combien cette aptitude varie en fonction du contexte. C'est même l'un des principes de l'évaluation neurocognitive que de tenir compte des éléments situationnels et affectifs pouvant retentir sur les capacités d'une personne. Extraire du dossier un score n'a aucun sens si on ignore dans quelle situation il a été obtenu, en pleine décompensation psychique ou somatique, ou après un séjour d'un mois réparateur quand le sujet a restauré son état général ou son moral. C'est classique, ça. Hein, la personne est capable, je dis toujours, elle est capable de faire sa toilette en présence des soignants, même si les soignants sont à côté en train de s'occuper du voisin ou de la voisine. Et puis une fois chez elle, eh ben, elle ne fait plus rien. Voilà. Donc il faut tenir compte de la situation, bien sûr. Pour être complet, ce tour d'horizon clinique devrait inclure le juge lui-même. Je ne dispose à ce sujet que de quelques témoignages cités ça ou là dans des articles de presse visant le grand public et qui dénoncent pour la plupart les mauvaises conditions dans lesquelles ces magistrats exercent leur mission. Je pense néanmoins que le choix entre la famille et une association tutélaire ne doit pas être toujours aisé et qu'il doit faire intervenir les impressions affectives, pas toujours objectives, issues de l'audition de la famille et de la personne concernée. Ici encore, la situation peut s'avérer déterminante. Je n'ai pas de témoignage direct de juges, mais je pense que leur boulot ne doit pas être facile. C'est bien plus qu'un magistrat instructeur ou que sais-je. Je pense que ça doit être un métier très, très, très difficile hein, d'avoir à entendre comme ça des familles qui se déchirent, etc., et devoir prendre des décisions. Et... Commentaire. Toutes les observations cliniques qui précèdent montrent ceci. En dehors de certains cas dans lesquels la personne est à l'évidence victime d'abus, la démarche de protection entretient un conflit, soit entre les personnes, soit à l'intérieur même de chacun des protagonistes. La psychanalyse interprète ce conflit comme l'expression de l'ambivalence suscitée par l'état de dépendance dans lequel se trouve la personne concernée. Dans Totem et Tabou, Freud attire notre attention sur le fait que les prescriptions à la base de la protection de certains personnages, les rois, les chefs, mais aussi de simples individus, placés dans une situation apte à susciter la crainte ou le dégoût, la femme qui a ses règles, le chasseur qui revient en ayant tué du gibier, ou le guerrier qui revient en ayant tué des membres de la tribu adverse, etc. Eh bien, le fait que ces personnages sont entourés de prescriptions, d'interdits, qui donc que ces prescriptions ont toujours pour origine des désirs interdits. Il est facile de transposer ces observations faites par les ethnologues auprès des primitifs. Freud a consulté Fraser, enfin, etc. Transposer ces observations faites par les ethnologues auprès des primitifs sur le parent âgé, affaibli par les infirmités. Les plus jeunes sujets sont alors davantage tentés de satisfaire leur hostilité à son égard. Leur ambivalence puise dans le fantasme de renversement de l'ordre des générations. Plus tard, dit l'enfant aux parents qui lui impose son autorité, « Lorsque je serai grand et que tu seras petit, c'est moi qui te ferai subir ce que tu m'imposes aujourd'hui. » Cette variante de la loi du talion n'est jamais explicitement formulée, mais elle est à l'origine de bien des hésitations devant les dispositions légales existant en faveur du parent âgé. Crainte d'ambivalence, soit crainte de satisfaire un désir interdit de vengeance, soit crainte que le parent garde toute sa puissance et se venge de ce qu'il interprétera comme un acte, un abus vis-à-vis de lui, etc. La protection ainsi offerte se trouve en quelque sorte contaminée par les fantasmes de vengeance. Il y a confusion entre protection et interdit, comme s'il y avait lieu de craindre que le mandat de protection éveille des désirs dangereux. Le fantasme de renversement de l'ordre des générations connaît des expressions moins directes. On craint par exemple que ce soit le parent qui se venge du contrôle exercé sur lui en déshéritant son mandataire. Ou encore, c'est du tribunal que le tuteur ou le curateur redoute le jugement sur la manière dont il exerce son mandat, comme s'il déléguait son surmoi au juge. Mon second commentaire sera pour observer que tous ces phénomènes se jouent préférentiellement sur le terrain de l'analité. Ce que Freud a appelé donc le stade anal de la libido. Freud a relevé chez l'enfant l'équivalence amour, argent, fesses, matière, dont il reste des traces dans le caractère dit anal. Hein ? Freud a décrit le caractère anal comme caractérisé par la parcimonie, l'opiniâtreté, la rétention. Voilà. Au-delà de la psychologie individuelle, dans notre société gouvernée par l'économie et par l'argent, c'est le vieillard lui-même qui est fécalisé, nous dit Maisondieu, Jean Maisondieu, dont j'ai donné deux ou trois titres là, si ça vous intéresse. Autrement dit, nous en faisons un objet partiel, par analogie avec les matières, dont la rétention ou l'expulsion sont l'enjeu du stade anal. Je dois souligner ici qu'une telle réduction touche aussi forcément celui qui gère les biens. Hein ? C'est pas seulement le vieillard qui est fécalisé, c'est aussi celui qui tripote les matières, les biens, celui qui gère. C'est peut-être pourquoi certains enfants sont réticents à assumer une gestion, comme s'ils craignaient de se trouver eux-mêmes pris dans cette relation anale, rejouant la manière dont la mère dresse l'enfant. En revanche, beaucoup de vieillards s'y prêtent, car cela offre un terrain de prédilection au déploiement de leur conduite d'opposition, de rétention, d'expulsion, on pourra ajouter de manipulation aussi, hein, dans tous les sens. Ce qui précède nous conduit à la question donnant son titre à cet exposé. Pourquoi est-il plus difficile de protéger la personne que les biens ? En dépit des contradictions, des conflits et des luttes parfois violentes que suscite cette gestion, il semble en effet plus facile d'aborder la protection du parent sous l'angle de ses biens que sous celui de sa personne. Dans le langage des psychanalystes, ce phénomène peut se formuler en termes d'objet partiel, d'objet total. Alors bon, on suit un petit développement là-dessus que j'ai essayé de faire court. Mais bon, je vais vous lire et puis je reprendrai si vous voulez, ou tout à l'heure on va... Ces termes forgés par Freud ont été repris par Melanie Klein et ses élèves dans leur théorisation de la position dépressive. C'est ce moment crucial du développement de l'enfant où il réalise que le bon sein, auquel il doit, vous avez tous entendu ces expressions bon sein, mauvais sein, bon objet, mauvais objet, etc., que le bon sein auquel il doit tant de satisfaction et le mauvais sein qui le frustre périodiquement forment une seule et unique réalité extérieure à lui. Cette découverte s'accompagne d'une inquiétude particulière, ce que Melanie Klein a appelé la position dépressive, sentiment d'inquiétude, d'inquiétude pour soi et pour la mère, d'inquiétude pour cet objet total que devient la mère, qui pourrait bien être endommagée par les attaques dirigées jusqu'ici contre le mauvais sein. C'est l'origine du sentiment d'ambivalence, c'est-à-dire c'est l'origine du sentiment d'être porteur à la fois de pensées tendres et de pensées hostiles, d'avoir à la fois de la haine et de l'amour pour cette personne. L'ambivalence étant donc le fait d'éprouver deux sentiments contradictoires, opposés, totalement opposés vis-à-vis d'une même personne. J'aime ma mère et en même temps je déteste cette femme. Alors, ce qui est à la fois tout à fait normal, ce qu'on considère comme une acquisition dans le développement, dans la maturation affective, mais qui peut prendre aussi, bien sûr, une forme pathologique. Hein. On ne va pas s'attarder là-dessus, mais c'est pour dire que là, je parle de l'ambivalence comme de quelque chose de normal. Il y a d'autres manières de formuler l'alternative entre objet partiel et objet total. Ce qu'il faut retenir pour notre sujet, c'est que l'objet partiel, le bon sein, le mauvais sein, le bon objet, le mauvais objet, ne peut être que bon ou mauvais, jamais les deux. Aborder le parent en objet total, c'est être soi-même un sujet total, c'est-à-dire supporter l'ambivalence et la culpabilité qui l'accompagne. Je rappelle que la protection joue dans les deux sens, comme protection du vieillard et souci de s'en protéger. Dans notre imaginaire, la projection de nos pensées hostiles sur le vieillard en fait un être tabou, à la fois malfaisant et sacré, à l'image du vieil Oedipe parvenu dans le bois sacré de Colonne. Oedipe arrive, aveugle, au bras d'Antigone, et là, il y a un coloniate là, qui dit « Halte là, n'avance pas plus, vieillard, tu entres dans le bois consacré aux Euménides, etc. Qui es-tu ?» Alors, il se présente. Alors donc, il y a constamment ces deux aspects, les Euménides étant à la fois les déesses de la vengeance, les Érinies, et puis en même temps les bienveillantes. Le bois sacré étant un bois interdit, Oedipe étant à la fois un personnage, une espèce de demi-dieu sur lequel les oracles se sont penchés, en même temps un être maudit, chassé. Et on retrouve constamment ce thème dans Oedipe à Colonne. Hein. L'oracle a déclaré que le corps d'Oedipe serait un gage de malheur pour ceux qui l'ont chassé, et de bienfaits pour ceux qui l'accueilleront. Voilà pourquoi Créon tente de s'en emparer, afin qu'il repose à Thèbes, puisque l'oracle a dit, encore une fois, que la cité qui aura le corps d'Oedipe sera heureuse, alors que la cité qui l'a chassé aura des malheurs. C'est du corps d'Oedipe que Créon veut s'emparer, et non de sa personne. En fait, Créon, lui, ce qu'il veut, c'est le corps, hein, la dépouille d'Oedipe. Tandis que Thésée, roi d'Athènes, vient lui offrir sa protection qui lui permettra de trépasser conformément à ses aspirations spirituelles ou à la vraie vie, comme le dit Sophocle, qu'Oedipe déclare avoir découverte. Dans la société où nous vivons, ce n'est plus le corps, mais l'argent du vieillard qui est objet de convoitise. Mais il s'agit toujours de ce que j'ai nommé un objet partiel. Vieillard tirelire, c'est un titre d'un ouvrage de Christian de Saussure. Vieillard martyr, vieillard tirelire, j'ai mis la référence là aussi. Vieillard tirelire, ou bien vieillard vaurien, c'est aussi, ça c'est Maison Dieu qui aime bien faire des comme ça, vieillard vaurien. Deux expressions empruntées à de Saussure et à Maison Dieu. deux formes de régression de l'objet total à l'objet partiel. La manipulation d'objets partiels permet de séparer bon et mauvais, de prendre et de rejeter. Fonctionner en sujet total exige un rapport aux autres et à soi d'une autre nature, devant sans cesse faire un travail d'intégration de ce qui se révèle chez soi et chez l'autre. En un mot, il est plus facile de séparer, de cliver, que de faire des liens. Mais c'est pourtant ce travail de liaison qui représente la pulsion de vie, tandis que la pulsion de mort est dans la séparation. Je ne dirais pas qu'il s'agit de reconstituer l'unité perdue, car elle n'est jamais véritablement achevée, mais d'en poursuivre, d'en reprendre jusqu'au bout la construction dans la relation de dépendance d'autrui, appelée à jouer un rôle de plus en plus important dans ce processus. Plus on avance dans la dépendance, et plus ce travail d'intégration repose aussi sur les autres. Hein, c'est le propre de la fin de vie. Voilà. Je m'excuse pour ce final un peu philosophique qui sort un peu du sujet. On est loin de l'explication de ce que c'est que la curatelle, la tutelle. Je ne sais pas si on sera amené à détailler ça. Je n'avais pas prévu de le faire. Mais voilà. Je vous remercie pour votre attention.